Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est l'une des grandes questions qui se posent à plus d'un milliard de catholiques à travers le monde avec des révélations et des affaires en Colombie, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Australie et encore ailleurs. Les agressions sexuelles commises par des membres du clergé sur des mineurs nuisent à l'image de l'Église et le pape lui-même ne semble pas savoir comment appréhender le sujet, comme l'illustre un récent voyage en Amérique latine. Pourtant, depuis Benoît XVI, une prise de conscience semble être en cours, mais pour des résultats qui suscite la discussion. L'Église catholique en fait-elle suffisamment contre les agressions sexuelles et la pédophilie? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir. Avec nous en studio, Isabelle de Golemin, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef du journal La Croix et auteur du livre Histoire d'un silence aux éditions du Seuil. Et c'est paru en 2016. Et au téléphone, Stéphane Joulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre de la Société des missionnaires d'Afrique, autrement dit les Pères Blancs, et psychothérapeute, auteur du livre « Combattre l'abus sexuel des enfants, qui abuse, pourquoi, comment soigner ?» C'est aux éditions Desclée de Brouwer. Aujourd'hui, la justice australienne décide si elle renvoie ou non en procès le cardinal George Pell pour des accusations d'agression sexuelle ancienne. Le cardinal Pell n'est pas n'importe qui, puisqu'il est cardinal préfet et qu'il est souvent présenté comme le numéro 3 du Vatican. On ne va pas rentrer dans le détail, la justice australienne s'en charge, mais on le disait, ce n'est pas la seule affaire. Il y a de plus en plus d'affaires ou de nouvelles affaires qui sont connues parce que l'Église a décidé d'entrouvrir les yeux et de lever un peu le couvercle, Isabelle de Golemin.
Oui, c'est-à-dire qu'on dit plus les choses, notamment d'ailleurs les fidèles dénoncent plus facilement, puisqu'avant il y avait une espèce de parole qui était censurée, auto-censurée de la part des catholiques qui se disaient « oh ben non, on va pas dénoncer l'Église, déjà on la critique beaucoup, etc. » Donc je crois que maintenant là il y a vraiment une évolution. Alors là où peut-être l'évolution n'est pas assez forte, c'est la réactivité, c'est la réaction du clergé et aussi du pape. C'est une grande déception, parce que c'est vrai que ce pape François, tout le monde l'attendait notamment sur ce dossier, et sur ce dossier-là, il est pas très bon, il faut le dire.
Alors Stéphane Joulin, est-ce que c'est parce que l'Église a commencé à ouvrir un peu les yeux, à en parler un petit peu, que la parole s'est libérée au sein des fidèles ?
Je crois que oui, en partie, mais c'est surtout parce que l'Église commence à écouter plus sérieusement ce que les victimes ont à lui dire. Et ça a pris beaucoup de temps, et c'est encore difficile dans beaucoup d'endroits, mais on commence à voir que quand les victimes sont écoutées, il y a des prises de conscience qui se font. Et là, ce week-end encore, le pape a rencontré trois des victimes qui étaient originaires du Chili. Et on sent bien que c'est dans ces rencontres-là que les choses peuvent avancer, quand on se met à l'écoute des victimes. Et là, on arrive à avoir des vrais changements.
On a parlé de l'Australie, mais il y a aussi des affaires très connues aux États-Unis. Ça a même fait l'objet d'un film oscarisé, Spotlight. En France, dans le diocèse de Lyon, où l'archevêque Philippe Barbarin fait l'objet de poursuites. Hein. On ne sait pas encore quel va être son devenir judiciaire. Alors, je pose une question qui fâche, hein, on va le dire très clairement. Est-ce que couvrir ces affaires a été à une époque ou à une autre érigé en système, Isabelle de Gaulle?
Bah oui, complètement, mais pas que dans l'Église catholique. Mmh. On avait la même attitude dans l'éducation nationale, dans l'armée, etc. Alors c'est pas pour excuser l'Église catholique, mais il faut aussi juger ça avec les lunettes peut-être du passé. Faire attention à ne pas juger des choses qui sont passées il y a 20 ans comme aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y avait
c'est
un système.
L'état d'esprit change au fur et à mesure.
L'état d'esprit change. Alors ce qui est vrai que ce qui s'est passé par exemple pour Lyon, ça a été à la fois couvert par les archevêques successifs qui n'ont pas voulu du scandale, qui avaient peur du scandale, un peu comme les hauts fonctionnaires ne veulent pas qu'il y ait de scandale dans l'État, c'est un peu le même genre de peur. Et puis ça a été couvert aussi par l'ensemble des prêtres qui le savaient, qui étaient plus ou moins au courant et qui n'ont jamais voulu ouvrir les yeux. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, par les fidèles qui surtout ne voulaient pas savoir non plus, révéraient tellement le prêtre qui refusait finalement de voir en lui un prédateur.
Alors, il y a donc un début de prise de conscience. De quand est-ce que ça date, Stéphane Joulin ?
La prise de conscience, ça dépend des lieux. En France, c'est quand même assez récent. Il y a eu, c'est-à-dire en 98, une première intervention en France auprès des évêques où il y a eu prise de conscience de la dangerosité du phénomène. Mais avant que l'on s'attelle vraiment aux questions sérieuses, il a fallu que le cardinal Barbarin soit inquiété personnellement pour que vraiment la machine commence à se mettre en route et qu'on commence à prendre les choses vraiment en main en France, en tout cas.
Alors, vous le disiez, Isabelle de Golemin, le pape François semble lui-même assez mal à l'aise, hein, sur ce sujet. Lors de son récent voyage en Amérique latine, il avait défendu énergiquement un évêque mis en cause pour avoir couvert des prêtres pédophiles avant de faire son mea culpa. Il lui-même ne sait pas très bien comment prendre ce problème.
Alors, c'est intéressant quelque part, parce que on voit bien que finalement, les choses bloquent au plus profond de l'Église. C'est-à-dire que même ce pape qui pourtant veut faire la vérité, etc.
Il a la volonté de le faire.
Oui, mais il n'arrive pas à se départir de ses réflexes cléricaux. Parce qu'est-ce qui s'est passé? Il va au Chili, on lui parle de ça, ça l'énerve. Il écoute d'abord les évêques, il n'écoute pas les victimes. Il écoute les évêques et dit, mais vous racontez n'importe quoi. Il s'énerve, il a une espèce de colère.
Il traite de gauchiste les gens qui lui en parlent. Hein, c'est ça.
Et après, donc, il revient là-dessus, il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, puis certains conseils lui disent, non, là, vous ne pouvez pas dire ça, etc. Et on voit bien que même lui, et d'ailleurs, il a écrit une lettre, hein, qui est assez courageuse à l'épiscopat chilien pour s'excuser. Et il dit, il faut faire attention, et surtout, il a cette phrase, attention, il ne faut pas d'abord voir notre fierté blessée. C'est-à-dire que c'est même lui, il ne voulait pas voir que l'Église pouvait comme ça, à ce point-là, faillir finalement, être en faute. Donc si même le pape, si même ce pape n'arrive pas à se départir de ses réflexes cléricaux, qui est de d'abord faire confiance aux prêtres, aux évêques, avant d'écouter des victimes
de
laïques,
défendre l'institution, en fait.
Défendre l'institution et ceux qui sont les piliers de l'institution dans l'Église catholique, c'est-à-dire les prêtres. Donc effectivement, là, ce qui pose problème, c'est que l'Église est incapable d'écouter et les victimes et des laïcs qui sont souvent experts, etc., sur ces sujets, et qui, mieux que les prêtres, peuvent conseiller le pape.
Stéphane Joulin, on va reparler de la parole des victimes, parce que c'est un petit peu votre spécialité, mais comment est-ce que vous appréhendez la position du pape? Il est sur un fil en équilibre? C'est compliqué pour lui?
Ben, je crois qu'il apprend à écouter. Moi je dois lui reconnaître qu'il est en train de passer d'un stade où il est confronté à une humiliation, à une position plus humble d'humilité, en disant ben voilà, oui, j'ai fait une erreur, je demande pardon pour les personnes que j'ai blessées, et je vais me mettre à écouter, ok, on va commencer à écouter. Donc il a une attitude qui est pour moi une attitude juste dans cette démarche là. Maintenant, c'est pas l'attitude de tout le monde dans l'Église, hein, et ça, c'est du chemin à faire, mais il nous donne l'exemple, il dit voilà, bon voilà, je fais cette démarche là, et je crois que c'est bon. Alors on peut dire c'est trop tard, c'est pas assez tôt, enfin peu importe, c'est dit. Voilà, on a un pape qui dit je me suis trompé, il fallait que j'écoute les victimes, je les écoute maintenant et on va voir ce que ça va donner. Alors ça, c'est pour moi un signe d'espérance.
Okay, et vous, ça vous aide dans votre travail que l'exemple vienne d'en haut, comme ça, justement?
Bien sûr, bien sûr. Parce que si cet exemple ne vient pas d'en haut, il n'y a pas du tout de crédibilité à l'action de l'Église. Parce que nous, on est sur le terrain, on va être confronté aux victimes, tout ça, et alors on va nous dire, ah oui, mais toi, tu écoutes bien, t'as l'habitude et autres, tout ça. Mais on va dire, mais tes chefs, là, on va pas y croire. Les évêques et autres, on n'y croit pas, ils sont pas capables de le faire. Donc c'est en voyant le pape qui dit, ben voilà, oui, j'ai fait des erreurs. Oui, et je regrette d'avoir blessé les gens, et je vais me mettre à l'écoute. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est écouter les victimes. Ouais. Et ne pas vouloir faire pour elles. Parce que la grosse tentation de l'Église catholique, c'est de dire, bon, je sais comment faire, je vais vous régler vos affaires, et ça va être réglé, ok? Tandis que là, ce qu'il faut dans ce travail-là, c'est se mettre à l'écoute des victimes.
Alors, que fait l'Église aujourd'hui pour lutter contre la pédophilie? Il y a des choses qui sont mises en place, Isabelle de Golemin?
Oui, franchement, oui. Au niveau français, il y a quand même depuis Lyon, effectivement, hein, parce que finalement, avant, c'était pas à ce point. Lyon, ça a révélé un peu l'ampleur jusqu'à l'affaire de Lyon, donc jusqu'à 2016. Les évêques français disaient, oh bah la pédophilie, c'est aux États-Unis, c'est en Irlande, mais c'est pas en France. Un peu comme le nuage de Tchernobyl, vous savez ça.
Oui, ça s'arrête aux frontières.
Voilà, ça s'est arrêté aux frontières. Donc là, ils ont pris conscience de l'ampleur du phénomène, parce qu'il y a eu une espèce de libération de la parole énorme un peu partout, et du coup maintenant dans chaque diocèse il y a une commission qui est là pour déjà recueillir les signalements, recueillir toutes les plaintes, y compris, et c'est très important, des victimes de choses qui se sont passées il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qu'on peut pas écarter d'un revers de main.
Oui, parce que ces gens-là sont devenus adultes entre-temps.
Voilà, ces gens sont devenus adultes, mais ils restent blessés, parfois profondément blessés, et ils ont besoin qu'on reconnaisse que ce qu'ils disent est vrai. En fait, tout le problème d'une victime, c'est que il pense que les gens vont le prendre pour un menteur. Et même, moi, c'est vrai que j'en ai interrogé pour mon livre sur l'affaire de Lyon, des gens qui peuvent avoir 50 ans et qui ont encore peur de dire qu'ils ont été victimes parce qu'ils ont peur qu'on leur dise qu'ils mentent, ce qui est quand même incroyable. Donc voilà, il y a ce travail de vérité qu'il faut faire. Et vraiment, dans chaque diocèse, maintenant, il y a des commissions, Il y a aussi au niveau du pays, de la Commission épiscopale de la France, il y a tout un travail pour faire un suivi des prêtres. Des prêtres pédophiles, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce que ceux qui ont juste des tendances, qui sont pas passés à l'acte, etc., comment est-ce qu'on traite le problème, etc. Parce que ça, c'est aussi un énorme problème pour l'Église. Qu'est-ce qu'elle fait des prêtres pédophiles ?
Au niveau international, Stéphane Joulin, puisque vous travaillez sur le terrain, notamment en Afrique, qu'est-ce qui est fait par l'Église ?
Pas grand-chose. Sur l'Afrique, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que on est encore dans le déni d'une situation. Ça n'existe pas en Afrique, ça n'existe que dans les pays américains, c'est un problème, pour beaucoup ils conçoivent que c'est une problématique liée à l'homosexualité des blancs et autres et tout ça. Alors quand on commence à s'asseoir un peu et à causer et puis qu'on voit que bah non, ça arrive dans les familles aussi en Afrique, ça arrive aussi dans les écoles, ça arrive dans différents lieux, alors là on essaye de voir à faire quelque chose. Mais pour l'instant l'Église est encore dans une position très puissante dans beaucoup de pays d'Afrique et dans beaucoup d'endroits elle est dans le déni total par rapport à cette problématique.
Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Il faut faire un peu dans tous les pays du monde ce qui a été fait par exemple en France au niveau de chaque diocèse, ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin ?
Non, je pense que là, il faut faire attention même par rapport à ce qui se fait en France. Il y a beaucoup de choses, il y a une grosse machine qui est en route, mais on va voir en termes d'efficacité, qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est encore à discuter, on n'est pas rendu là. Je pense qu'il faut en Afrique, c'est éduquer sur le terrain, éduquer dans les communautés chrétiennes, éduquer dans les collèges, dans les écoles, éduquer le personnel des agents pastoraux, les prêtres, les religieuses qui sont sur le terrain. Alors moi, je participe à ça et on fait beaucoup de formations, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Kenya, que ce soit dans divers en lieu, pour former les gens qui sont sur le terrain, parce que ce sont les premières lignes de contact avec les victimes, okay, et c'est là que ça doit se faire. Après, on espère que en montant, on va embarquer la hiérarchie aussi qui va rentrer dans le mouvement. Mais il faut que d'abord la réponse aux victimes soit mise en place sur le terrain.
Alors, information et formation, c'est une composante essentielle pour les gens qui font partie de l'Église, pour le clergé, Isabelle de Gaulmin, mais on est obligé de parler de la question judiciaire et de la question de la discipline interne, des sanctions. Est-ce que là, il y a quelque chose qui se met en place ?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la justice du pays. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'Église a considéré qu'elle était en dehors de la justice du pays, que c'était à elle de faire sa propre justice et qu'elle le ferait mieux que le pays. Donc, ce qui, en tout cas, dans des pays comme la France, ce qui est maintenant extrêmement important, c'est dès qu'il y a un signalement, dès qu'un évêque entend parler de quelque chose, il va à la justice. Et il signale son prêtre, même si pour lui c'est dur, parce qu'il faut bien voir que la relation entre un prêtre et un évêque est très forte.
Relation de confiance, en principe.
Voilà. A priori, aujourd'hui en France, c'est ce qui se fait. Et puis il y a aussi après des sanctions canoniques, ça c'est le droit canon, le droit interne dans l'Église, qui peuvent être diverses. Mais ce qui est très important, je pense, dans nos pays, en tout cas démocratiques, où la justice fonctionne, etc., c'est d'abord de faire confiance à la justice du pays. Puis la deuxième chose très importante, c'est aussi aux catholiques de se bouger. Parce que moi, je pense qu'effectivement, on peut toujours accuser l'évêque de pas faire ce qu'il faut, etc. Mais les catholiques, souvent, quand on enquête un peu, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment au courant, ou la plupart, ils se doutent de quelque chose, etc.
Il y a une autocensure.
Non seulement une autocensure, mais il y a une espèce de silence, parce que, le prêtre, c'est quelqu'un qu'on révère, qu'on respecte, on veut pas dire... C'est un peu comme dans la famille,
c'est un peu comme l'inceste.
Voilà. Et donc, je pense que l'éducation, c'est d'abord l'éducation des catholiques, c'est leur église, ils sont pas des moutons, c'est quand même à eux de réagir aujourd'hui, et d'être des adultes, et finalement, ils ont l'église qui mérite.
Alors, Stéphane Joulin, on l'a bien compris depuis le début de cette émission, pour vous, la parole des victimes n'est pas suffisamment prise en compte.
Non. Et c'est bien la difficulté. C'est-à-dire que l'Église veut faire, dans beaucoup d'endroits, elle essaye de faire des choses, mais elle veut le faire sans les victimes. Pour les victimes et sans les victimes. Et ça peut pas marcher. Et il y a une chose qui est fondamentale, c'est que le crime sexuel, c'est par définition le crime qui a très peu de témoins. Okay, et d'avoir quelqu'un qui écoute une victime, c'est devenir témoin de la souffrance de cette personne. Et c'est donner une existence à son histoire douloureuse. Et ça, c'est fondamental. Et beaucoup de gens, et beaucoup d'évêques n'arrivent pas à comprendre l'importance de leur rôle dans cette écoute de la victime. C'est que ça redonne la vie, ça redémarre la vie dans une personne à partir du moment où on accepte d'être à côté d'elle, assis comme témoin de sa souffrance.
Ouais. Isabelle de Golemin, comment est-ce qu'on peut davantage prendre en compte la parole des victimes?
Bah, il faut que effectivement l'Église leur fasse une place, enfin les mette même au centre, parce que enfin moi ce qui me frappe par exemple pour l'histoire de Lyon, il y a à peu près il y a 70 victimes, donc c'est vraiment une énorme affaire pour un seul prêtre.
Une association qui s'est montée, la parole libérée,
qui s'est montée, mais qui s'est montée contre le diocèse, parce que le diocèse n'a jamais voulu lui laisser la place. Donc du coup, elle se retrouve en dehors, et le diocèse en parle toujours comme d'un ennemi, des gens alors avec qui on va éventuellement négocier. Le problème, c'est que ces gens, ils sont baptisés, ils sont catholiques, ils sont dans l'Église, autant que le prêtre qui a violé. Donc c'est vraiment des gens qu'il faut considérer comme faisant partie de l'Église, même s'ils vont pas à la messe tous les dimanches, et les mettre au centre de la procédure. C'est ça que les évêques et les prêtres ont parfois du mal à comprendre, c'est que ces victimes-là, elles sont autant dans l'Église que finalement.
Ils ont du mal à descendre de leur position d'autorité, c'est ce que vous voulez nous dire.
Oui, et puis c'est vrai que c'est dur. Moi, très sincèrement, j'étais la journée à la croix, donc je connais bien l'Église, etc. Et tant que j'ai pas écouté des victimes, je sous-estimais complètement le fait de la pédophilie. C'est quand j'ai découvert des victimes, d'ailleurs, qui étaient souvent des proches, qui m'ont raconté ce qu'ils ont vécu, et que j'ai compris. En fait, c'est vrai qu'il faut les écouter, parce que sinon on peut pas comprendre ce que c'est que ce crime. Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont rien dit sur le coup? Pourquoi est-ce que ce silence? Et il faut les écouter pour comprendre que quand on a 8, 9, 10 ans, eh ben, on dit rien, et on dit rien ensuite pendant des années et des années.
Stéphane Joulin, est-ce qu'on a des chiffres pour comparer à ce qui se passe dans l'Église par rapport à ce qui se passe dans le reste de la société? Moi, en préparant cette émission, je me suis aperçu que sur l'affaire australienne, notamment, il y avait 7% des prêtres catholiques australiens qui étaient concernés, contre 2 à 3% des hommes dans la société. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus?
Alors, c'est très difficile la question des chiffres, parce qu'il faut voir qu'est-ce qui est comparable, sur quelle période et autres. Et en fin de compte, à part l'Église catholique, il n'y a pas beaucoup de chiffres qui sont disponibles dans des catégories de population. Parce que comparer les prêtres dans une société à la population générale, c'est toujours un peu risqué, parce que les prêtres ont plus d'accès facilement à des enfants que la population générale. Ok, si on prend les chiffres qui sortent de l'Australie sont un peu choquants en ces termes-là, parce qu'ils sont très très forts. Mais si on prenait d'autres pays comme les États-Unis, où on peut avoir quelques comparaisons, on voit qu'il y a un tout petit peu plus de prêtres que de la population générale. Mais quand on compare, il y a une étude qui avait été faite sur les enseignants, on est à peu près dans les mêmes catégories de statistiques. Ok, donc il y a peu de différence. Mais c'est très difficile à comparer. Aujourd'hui, parce que tout justement, il y a très peu de chiffres et c'est très peu documenté.
Ouais. La timidité de l'Église, Isabelle de Golemin, est-ce qu'elle est due au fait que derrière, il y a des questions théologiques très lourdes qui se posent, le célibat des prêtres, donc il y a qui remettent en cause des dogmes qui ont des centaines d'années, quelque part.
Oui, alors, quelque part, il y a ça quand même. Je pense que c'est moins le célibat, parce que vous avez des pères qui sont incestes, enfin, l'inceste existe aussi dans les familles. Mm-hmm. Donc, c'est pas tant le célibat que la manière dont est regardée la sexualité dans l'Église catholique, mm-hmm. le fait que la femme est quand même dans la tête encore de beaucoup de prêtres, un peu finalement, qui met en danger, qui est pécheresse ou qui va tenter la tentatrice, etc. Et que il y a toute une sexualité qui est faussée, qui est viciée, qui va pas dans la manière de voir les choses. Et à mon avis, ça ce travail-là n'a pas encore été fait. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de théologien moraliste d'une Église qui fait tellement de morale par ailleurs, qui se soit emparée du problème. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal dans l'Église à accepter l'hétérosexualité, quelque part la diversité sexuelle? On a des prêtres qui finalement vivent entre eux, entre hommes, et qui ont peur des femmes. Et je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas sain et qui peut-être, il faudrait vérifier ça, amener à des conduites comme celle-là.
Stéphane Joulin, c'est un des problèmes clés pour vous?
Oui, alors là, j'aurais une petite différence par rapport à Isabelle.
C'est un débat, ça tombe bien.
Point de vue. Voilà, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait quant à la maturité des prêtres aujourd'hui, et puis leur affectivité et la manière de vivre le rapport à la femme, entre autres. Hein. Et on est plus dans ce que c'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans aujourd'hui dans les formations, dans les séminaires. Donc on a beaucoup évolué sur ces questions-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que derrière la problématique de l'abus sexuel, des enfants, il y a aussi une problématique du pouvoir, ok? Et donc le pouvoir dans l'Église, il est où? Il est aux mains des clercs, ok? Mm-hmm. Et le seul moyen d'accéder à la cléricature dans l'Église catholique, c'est le célibat,
oui. Ok? D'accord.
Et donc c'est sûr que là, le célibat, dans le terme de l'accès au pouvoir, a question à voir dans les abus sexuels, mais pas dans la dynamique abusive en tant que telle autrement.
Je suis obligé de vous couper, Stéphane Joulin. Merci à vous également, Isabelle de Golemin, d'avoir participé à cette émission. Prochain débat, mercredi, même heure, même endroit. demain ce sera Mardi Politique. Bonjour chez vous. RFI.